Bonjour, bienvenue. Dans cet épisode de Regard Public, nous allons nous intéresser à la revitalisation des territoires et à l'habitat, des enjeux majeurs pour le développement durable des territoires. Nous ferons ainsi le point sur ce qui a été réalisé à Montbard, en Côte d'Or, avec le programme Petite Ville de Demain. Vous découvrirez les solutions d'Aatico, une entreprise qui accompagne les collectivités dans l'attribution des logements sociaux. Enfin, nous parlerons mobilité inclusive avec Transdev.
Regard Public, les solutions du groupe Caisse des dépôts.
Les villes de moins de 20 000 habitants, si elles font face à de nombreuses difficultés, sont des lieux d'innovation et démontrent régulièrement leur attractivité. Pour les aider à inventer leur avenir, un programme a été mis en place, Petite Ville de Demain. Bonjour Laurence Porte.
Bonjour.
Vous êtes maire de Montbard entre Dijon et Auxerre et vice-présidente du conseil départemental de Côte d'Or. Et puis je suis également avec Sophie Dimunch. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice territoriale de la Banque des territoires Côte d'Or et Yonne. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler ce qu'est le programme Petite Ville de Demain ?
Alors le programme Petite Ville de Demain est un programme lancé par l'État qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes de moins de 20 000 habitants et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités locales dans leur trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique. La Banque des territoires est un partenaire de premier rang de ce programme depuis sa conception. Nous sommes en effet convaincus que les petites villes constituent un maillage vital et porteur d'atouts pour les territoires et que l'aspiration à bien vivre est une réelle opportunité pour toutes ces communes. Nous mobilisons à l'intention de toutes les communes lauréates de ce programme des moyens financiers exceptionnels, que ce soit en ingénierie, en prêt ou en investissement.
Alors ce programme a été déployé à Montbard où il y avait déjà un mouvement de redynamisation qui avait été enclenché, Laurence Porte.
Absolument. Pour nous, l'actuel dispositif Petite Ville de Demain, il est vraiment dans une logique de continuité. Continuité avec le précédent programme de revitalisation des centres-bourgs que nous avons donc mené de 2016 à 2022 au travers d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, mais également de très très importantes actions de réaménagement de l'espace public et puis de soutien très 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 incitatif auprès des commerçants avec un dispositif qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus et qu'on appelait un FISAC.
Quelles actions concrètes avez-vous mis en place donc avec ce programme Petite Ville de Demain ?
Sur Petite Ville de Demain, on en est en phase là de finalisation de la convention d'opération de revitalisation de territoire qui comprend énormément de volets. Et le focus principal que nous, on a souhaité faire à Montbard là, sur ce dispositif qui va donc courir jusqu'au 2028, c'est vraiment avec une action forte sur le logement et notamment l'habitat privé. Pour vous expliquer les choses, on est une petite ville d'environ 5000 habitants. On a un quart des ménages qui sont en précarité énergétique au niveau de l'habitat. Et puis, j'ai une population qui est quand même, il faut se le dire, vieillissante, avec un bon tiers de personnes qui ont plus de 60 ans. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Alors, concrètement, ce à quoi on veut aboutir, c'est pouvoir diversifier l'offre de logement. C'est pouvoir lutter contre les passoires énergétiques au travers d'aides financières, hein, sonnantes et trébuchantes. Alors là, c'est en lien avec l'ANA, entre autres. Et puis avoir un volet aussi un peu plus coercitif sur la résorption d'habitats indignes. Et puis ce qu'on veut, c'est accueillir de nouveaux habitants. Voilà, et le logement, c'est fondamental en termes d'attractivité.
Et donc ce programme pour vous, c'est une aide indispensable ?
Alors une aide indispensable dans le sens où ça permet vraiment de structurer une stratégie, une feuille de route. Et je pense que c'est en cela que les petites villes de demain, le fait d'être dans ce dispositif, ça nous oblige vraiment à se mettre autour de la table, à checker vraiment tous les sujets, toutes les thématiques. Là, j'ai évoqué juste celle du logement, mais c'est une thématique parmi d'autres, hein, mais qui est importante. Donc ça apporte vraiment de l'ingénierie, de la réflexion et puis du financement sur l'ingénierie. Parce que dans les petites villes, souvent, on manque d'ingénierie, hein, de ressources humaines. Et Petite Ville de Demain, justement, nous permet de financer un poste de chargé de projet, ce qui est absolument fondamental dans l'accompagnement pour la mise en œuvre. Après, concrètement, pour la réalisation des projets, il ne faut pas non plus se leurrer. On reste sur des financements de droit commun et puis des études hein, pour lesquelles, justement, la Banque des territoires est à nos côtés pour des études préalables.
Oui, Sophie, vous vouliez rajouter un mot sur la partie financement ?
Oui, effectivement, comme je l'ai dit, nous mobilisons des moyens considérables en ingénierie parce que ça nous paraît effectivement important pour structurer et assurer le montage de projets les mieux conçus et les plus sûrs possibles. Et à ce titre-là, par exemple, sur la Côte d'Or, nous avons mobilisé plus de 500 000 euros de crédit d'expertise et nous cofinançons les chefs de projet pour accompagner la mise en place de cette première phase du programme Petite Ville de Demain.
Et vous serez là également pour le financement des projets ?
Et effectivement, nous sommes pleinement engagés et nous resterons mobilisés pour financer l'intégralité des projets, quel que soit leur stade d'avancement.
Merci à vous deux.
Merci à vous.
Je vous propose de rester sur le sujet de l'habitat et de parler maintenant du logement social qui occupe une place essentielle dans les missions des élus locaux. Dans les territoires, ils sont souvent en première ligne pour recevoir les personnes et familles en recherche de solutions. Alors pour en parler, je suis avec Julien Ligier, consultante chez Aatico Conseil, et puis Julien Lepléder, consultant indépendant. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Julien Ligier, Aatico Conseil est un cabinet spécialisé dans le logement social, c'est ça ?
Tout à fait. Nous intervenons auprès de collectivités de toute taille et de bailleurs sur tout le territoire. Au sein d'Aatico, j'anime en particulier l'offre sur la politique d'attribution et la mise en œuvre de la réforme d'accès au logement social. Nous sommes une filiale du groupe 7, filiale de la Caisse des dépôts, qui accompagne et conseille les acteurs du territoire.
Julien Lepléder, vous êtes sociologue et consultant indépendant. Vous travaillez souvent avec Aatico.
Souvent avec Aatico pour apporter aussi un petit élément différent. J'ai créé aussi avec Aatico notamment un espace qui s'appelle Lab, avec l'ambition d'accompagner un petit peu différemment les projets autour de l'habitat, notamment dans une période de transformation profonde de notre société qui nécessite de notre côté aussi de changer nos manières d'accompagnement.
Vous parliez de transformation, il y a des transformations, des évolutions. Il y en a eu dans le rôle des élus et leur responsabilité dans le domaine du logement social a évolué.
Dans le domaine du logement social, elle a beaucoup évolué, notamment dans celui des attributions ces dernières années. On a un législateur qui a été très actif avec près de 7 lois en une quinzaine d'années. Et pour les élus, dans une réforme qui est assez technique, c'est une vraie complexité parce qu'il s'agit d'appréhender ces réformes, mais aussi de changer de posture. Donc on a deux éléments qui sont essentiels. Alors qu'il y a les intercommunalités qui se constituent, c'est accepter de rentrer dans un jeu collectif, dans la structuration de politiques locales d'attribution, une dimension qui est assez fondamentale, collectif avec les autres élus du territoire, collectif avec l'ensemble des opérateurs et des intervenants d'une même question, en l'occurrence celle des attributions. Et puis une dimension plus opérationnelle, à l'heure où des stratégies se définissent au niveau métropolitain ou intercommunal, l'élu local, l'élu communal, il a une fonction, une responsabilité qui est peut-être encore plus forte hier qu'aujourd'hui, qui est celle du lien de proximité, du lien avec les demandeurs de logement qui sont parfois oubliés dans la technicisation de ces politiques.
Julien Ligier, comment concrètement Aatico peut accompagner les élus ?
Alors notre accompagnement est pluriel. Il commence souvent par de la pédagogie, parce que comme le disait Julien Lepléder, cette réforme est complexe et technique et il faut la rendre plus concrète auprès des élus afin souvent de les rassurer dans le rôle qu'ils ont à jouer au sein de cette politique d'attribution intercommunale. Et puis, notre rôle, c'est de définir avec eux et de manière partenariale une politique intercommunale cohérente sur les attributions et la gestion de la demande. Ça se traduit d'abord par la réalisation d'un diagnostic de la demande, des attributions, de la capacité du parc social à y répondre et puis enfin à identifier les déséquilibres d'occupation. L'objectif, c'est de partager un socle commun de connaissances objectivées. Et puis, on les aide dans un deuxième temps à décliner cette réforme nationale dans leur territoire, au sein de leur territoire, et puis aussi à mieux identifier de quoi on parle, comment on loge les ménages prioritaires, comment on loge les ménages du premier quartile. Ce sont souvent des notions qui sont difficiles à appréhender, donc on les aide vraiment à identifier comment décliner ces objectifs localement. Et enfin, on essaye de travailler avec eux sur des politiques réalistes et opérationnelles, et on va élaborer avec eux des moyens, des actions pour que cette politique soit bien mise en œuvre sur les territoires, comme par exemple la cotation de la demande ou encore le service d'accueil et d'information de la demande. Et on définit bien sûr des outils de suivi et d'animation de cette politique.
Avez-vous des exemples concrets de missions ?
Actuellement, on travaille par exemple avec la communauté de communes Terre des Confluences qui se situe en Occitanie. On a défini avec les élus et les partenaires leur politique locale d'attribution. Et puis aujourd'hui, on les aide à faire le bilan de cette politique locale. Mais au-delà du bilan, on les aide surtout à mettre en place les différentes actions qu'ils ont pu identifier ensemble. Par exemple, former les agents d'accueil à mieux renseigner les demandeurs ou encore se donner des règles partagées pour fiabiliser les données dans le service national d'enregistrement ou mettre en place une meilleure information entre le bailleur et le réservataire lorsque un logement se libère.
Merci à vous.
Merci.
La mobilité est bien évidemment une des composantes importantes de l'attractivité des territoires. Édouard Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général France de Transdev, un acteur mondial de la mobilité, mais je vous laisse d'ailleurs présenter Transdev.
Transdev, c'est d'abord un opérateur public de transport public français Nous sommes effectivement présents dans 18 pays dans le monde. On représente 82 000 collaborateurs et assez rapidement, on devrait être plus de 100 000 dans le groupe. Et en France, c'est 34 000 personnes qui œuvrent chaque jour et qui permettent à chacun de se déplacer avec des solutions sûres, fiables et innovantes au service du bien commun.
En matière de mobilité, est-ce que vous constatez en France qu'il y a des zones qui sont peu denses et puis une certaine précarité de mobilité ?
Quand on regarde des territoires périphériques aux agglomérations, semi-rurales et rurales, quand on caractérise la France dans son ensemble, 40% des Français n'ont pas accès à un service de transport public. 83% des kilomètres des mobilités du quotidien sont faits aujourd'hui en voiture. Et donc oui, il y a des gens qui n'ont pas accès à des solutions de transport public. Et donc tout notre rôle, c'est de trouver comment on peut rendre complémentaire un certain nombre de solutions, s'adresser à des personnes éloignées de l'emploi, comment on peut aussi les former, connaître et identifier les services qui sont près de chez eux. C'est par exemple dans un certain nombre de réseaux de bus d'avoir l'affichage des propositions d'emploi au moment où on passe devant l'entreprise qui propose des emplois, par exemple. C'est évidemment notre propre rôle d'un des premiers employeurs français.
Quelles solutions de mobilité proposez-vous pour les zones qui sont peu denses ?
Dans les territoires moins denses, on va dire que les centres-villes, où c'est parfaitement équipé aujourd'hui, ou en tout cas on est à la marge et on regarde plutôt les modes actifs et l'utilisation de la marche. Là, on est sur ces territoires-là, c'est comment on peut essayer de se passer de la voiture ou comment on peut faire des propositions à des gens qui n'ont ni voiture ni moyen de transport. C'est vraiment du travail partenarial entre les acteurs du territoire pour essayer d'abord d'identifier où sont les lignes les plus structurantes qui passent à proximité et comment on fait du rabattement vers ces lignes avec des solutions de covoiturage, avec des solutions d'autopartage, avec des solutions de mobilité collective.
Quelques exemples d'offres ?
Nous, on a une offre qui s'appelle le Birdbus, qui est une offre où on travaille avec des associations pour essayer de créer un dispositif complémentaire au service de transport public qui est pensé par les habitants pour les habitants, que nous travaillons comme professionnels du transport sur des lignes bien identifiées, avec des arrêts bien identifiés et qui permettent finalement avec des volontaires, avec des chômeurs, avec des retraités, de créer un roulement de conducteurs que nous formons sur des véhicules de 9 places pour permettre aux gens de se déplacer sur ces territoires.
Oui, vous avez des solutions de mobilité inclusive.
Effectivement, c'est totalement inclusif. On travaille beaucoup dans les quartiers prioritaires de la ville. On a beaucoup travaillé avec la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires sur les quartiers prioritaires de la ville et toutes les solutions qui peuvent être atteignantes. Et puis, on a aussi, nous, une entreprise qui est à l'image des Français, c'est-à-dire qui est diverse, qui a des gens qui viennent de tous les horizons, de tous les quartiers, afin d'être le plus en proximité et qu'on réponde bien à la demande locale.
En matière de mobilité inclusive, quels sont les bénéfices de la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM ?
Pour faire de la mobilité inclusive, il faut déjà utiliser tous les réseaux structurants qui existent, tout ce qui permet aussi d'aller en fait, du territoire moins dense vers le territoire dense où la plupart des gens vont travailler. Et donc, il faut permettre à ces gens-là d'utiliser, par exemple, des solutions de car express. On peut évidemment maintenant brancher ce qu'on appelle, nous, le vélo assistance électrique, le VAE, qui permet de faire une courte distance, mais qui permet de rejoindre un parking relais, qui permet après de rejoindre les transports publics et les réseaux structurants. Donc voilà, une adaptabilité, être capable de comprendre les territoires, c'est un des bénéfices de la LOM. Traiter spécifiquement pour venir travailler ces territoires moins denses, d'être capable de construire avec les intercommunalités, avec les agglomérations, des solutions sur mesure. Avec une logique qui est quand même, non pas de mettre des transports pour mettre des transports et pour se faire plaisir, mais d'essayer de dessiner quelque chose d'utile et qui ne gaspille pas l'argent public.
En quelques mots, vous travaillez vraiment sur un sujet très important parce que la mobilité, évidemment, elle a un impact sur le pouvoir d'achat, sujet très important en ce moment pour les Français.
C'est vrai qu'on ne regarde pas le transport public sous cet angle. Pendant ce temps-là, vous pouvez travailler. Pendant ce temps-là, vous pouvez lire les journaux qui sont totalement à disposition et que vous pouvez lire sur votre téléphone ou sur votre tablette. La moyenne des gens gagne du temps. On peut dire qu'ils vont gagner entre 10 et 20 heures par mois de temps disponible pour eux. Mais surtout, ils vont limiter l'usage de leur voiture avec l'augmentation des prix de l'énergie, d'économiser en fait le carburant de sa voiture. Et globalement, c'est entre 200 et 250 euros par mois de gain de pouvoir d'achat. Donc c'est tout bénef et c'est aussi un élément fort de lutte contre le réchauffement climatique puisqu'on fait du transport collectif et donc on fait du report modal de la voiture individuelle vers le transport collectif et la mobilité partagée.
Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que vous êtes vraiment au service des territoires.
On voit bien que la mobilité peut devenir rapidement un sujet de fracture sociale et territoriale. On a aussi un sujet face à nous qui est celui de la lutte contre le réchauffement climatique. La mobilité partagée a un rôle complet. Le transport public est clé, mais pour ça, pour que les gens abandonnent leur voiture ou que les gens aient facilité à trouver un mode de transport public adapté à leurs besoins, il faut créer au moins 3 fois plus d'offres sur les territoires que ce qui existe aujourd'hui. Il faut avoir des logiques de complémentarité, c'est du ferroviaire, du car express pour rabattre sur les lignes structurantes ferroviaires, mais c'est aussi l'utilisation de l'infrastructure routière. C'est toutes les complémentarités qu'on peut avoir avec les modes actifs comme le vélo et travailler tous les publics, intégrer aussi le vieillissement de nos populations. Et donc, on a, nous, cette particularité, c'est d'être présent à peu près dans tous ces domaines-là. Nous avons une mission de service public. Nous sommes un groupe très décentralisé et nous laissons beaucoup d'initiatives à nos équipes pour répondre aux besoins et aux attentes des territoires, de leurs collectivités, de leurs autorités organisatrices de mobilité et des Français.
Merci à vous.
Merci à vous.
C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site du groupe Caisse des dépôts et puis sur celui de RMC. À bientôt.